Le club radio de votre collège a réalisé des chroniques sur les sujets du coup de cœur au programme des débats et des chroniques.
Bienvenue sur la radio du collège Longtrême Panel.
Partons tout d'abord à la découverte du projet de médiation canine de Madame Parère avec Raphaël. Bonjour Madame Parère.
Bonjour.
Vous êtes là pour nous décrire votre projet. Donc première question, pouvez-vous nous présenter ce projet ?
Bien sûr, donc il s'agit d'un projet de médiation animale en milieu scolaire et plus précisément médiation canine, c'est-à-dire associer un animal à un projet professionnel qui soit éducatif, social, thérapeutique ou de recherche. Et à travers ce projet, donc, le but est de développer les compétences psychosociales de mes élèves. Les compétences psychosociales se divisent en trois parties, les compétences cognitives, émotionnelles et sociales. Le but étant de travailler sur les émotions, la réussite scolaire, l'absentéisme, puisque le chien a une capacité innée à écouter et se taire.
Okay. Est-ce que n'importe qui peut ramener son chien comme ça au collège ?
Eh bien, la réponse est non. C'est-à-dire que je n'ai pas amené mon chien au collège du jour au lendemain. J'ai présenté mon projet en conseil d'administration. J'ai mûrement réfléchi le projet en amont. J'en ai parlé d'abord aux chefs qui m'ont dit d'accord, mais présentez-nous le projet. Donc je l'ai mûri, j'ai commencé à le mûrir à partir du mois d'octobre et je l'ai présenté au conseil d'administration du mois de février. Voilà.
Est-ce que vous aurez fait une formation pour ça ?
Alors, il n'y a aucune formation à ce jour concernant la médiation animale, mais je me suis quand même formée. Je me suis formée au programme PECRAM. PECRAM, c'est un programme d'éducation à la connaissance du chien et aux risques liés aux accidents par morsure. Donc, je suis maintenant devenue formatrice PECRAM. Donc, je forme les enfants pour les risques liés aux morsures. Et j'ai également suivi, je suis encore toujours sur la plateforme Magister du rectorat de l'Académie de Montpellier. On est un groupe de personnes qui s'intéressent à la médiation animale. Et entre nous, on discute et on suit des petites formations puisqu'il n'y a pas de cadre légal concernant la formation de médiation animale en milieu scolaire. Du moins, pas encore, on l'espère.
Ok, merci. Les élèves sont-ils autorisés à le caresser ?
Alors, non, parce qu'au même titre qu'un être humain, on ne vous fait pas la bise ou on ne fait pas un câlin si vous ne le souhaitez pas. Donc, c'est pareil pour l'animal. On va lui poser la question. Donc, j'apprends à mes élèves à lire le chien. S'il a envie que les élèves le caressent, bah, il va le faire sentir. Et il y a trois moyens de caresser un chien. Jamais sur la tête, parce qu'il peut se sentir oppressé et là, risque de morsure, ce qui n'est pas le cas avec Jump. Mais on caresse le chien sous la gorge, sur les flancs et sur le dos. Donc on caresse le chien si lui a envie d'être caressé.
Quelles sont les contraintes pour réussir à monter un projet comme ça ?
Alors, il y a plusieurs contraintes, pas forcément dans cet ordre-là, mais j'ai d'abord eu la contrainte des élèves allergiques, des élèves phobiques. La potentielle réponse négative du conseil d'administration, j'avais très peur de ça, et ça a quand même un coût, à savoir que je paye tout de ma poche, hein, je suis pas financée pour ça, donc que ce soit les formations, que ce soit les frais vétérinaires, les attestations de comportement, donc il y a également un frein financier pour monter ce genre de projet, sans parler des croquettes, etc. Bon, voilà.
Qu'est-ce que ça apporte aux élèves de faire un projet comme ça ?
Alors, il est encore un peu tôt pour avoir des retours, parce que ça fait seulement un mois qu'on a instauré, que Jump intervient avec mes classes. Mais d'après les retours de mes élèves, j'ai l'impression que ça les apaise, qu'ils sont contents de l'avoir en classe. Et du moins, c'est ce que j'espère. On le verra un petit peu plus tard dans l'année.
Merci pour cette interview, Madame Parère.
Merci à vous.
Parlons foot, et plus précisément du traitement médiatique du foot masculin et féminin avec le débat d'Abigail, Raphaël, Lounis et Capucine.
Aujourd'hui, le club radio du collège de Gignac vous propose une chronique débat et je laisse l'explication à Raphaël, membre de ce même club.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la question du débat, c'est en rapport avec le foot. Donc, est-ce que le foot féminin doit être autant valorisé que le foot masculin ? Pour moi, le foot féminin, bah, clairement pas. Parce que si on se base sur des chiffres, j'ai pu faire mes recherches que le foot féminin a été créé vers l'an 2000. Enfin, pas officiellement, mais a été créé vers l'an 2000. Et le foot masculin a été créé vers les années 1850. Donc le premier club masculin, c'est Sheffield FC. Et pour moi, historiquement, le foot masculin doit être plus valorisé parce que, bah, en gros, pour dire, bah, ça date, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais le foot masculin est plus vieux. Donc pour moi, premier arrivé, premier servi.
Alors selon toi, Raphaël, c'est une question de...
Bon, il y a des gens qui sont morts comme ça.
D'histoire, c'est parce que le foot féminin, oui, le foot masculin est plus ancien que le foot féminin.
Bien sûr, quelque part, oui. Il y a après même le niveau de compétition, on va pas se mentir, que le foot masculin, c'est du meilleur jeu que le foot féminin, malgré qu'il y a des beaux moments dans le foot féminin, je dis pas. Mais par exemple, je pense à l'équipe de France contre l'Argentine en foot féminin, il y a eu des moments magnifiques. Des moments magnifiques. Il y a eu un but somptueux de... Comment ça s'appelle ? De celle qui joue à l'OL, là. Bah, j'ai oublié son nom. Mais il y a eu des buts somptueux. Enfin, voilà.
J'ai l'impression que ça fait réagir, ton argument.
Alors déjà, j'aimerais réagir aux dates qui m'ont été citées. Mmh. Puisque j'ai pu trouver que même si elle n'était pas officielle, la première femme qui a monté une équipe de foot féminin, donc en Angleterre... Mmh. C'était plutôt vers 1890 et qu'ensuite le foot féminin a été officiellement reconnu, la fédération, pas vers les années 2000 mais vers les années 1970. Je ne suis pas forcément d'accord sur le fait que le premier arrivé est le premier servi, parce que forcément ça participe au fait que ce soit plus médiatisé puisque ça a été les premiers à l'être. Sauf qu'ensuite ça a été surtout quelque chose où volontairement ils voulaient rejeter les femmes du foot. Il y a eu des périodes où en plus le foot féminin s'est développé, notamment pendant la Première Guerre mondiale, parce que c'était beaucoup plus libre de leurs actions. Mais après cette guerre, il y avait cette idée qu'il fallait repeupler les pays, et donc c'était vous restez à la maison, il faut pas vous abîmer, il faut pas vous faire mal parce que vous devez avoir des enfants. Et donc, pour moi, ça tient vraiment pas que de premier arrivé, premier servi.
Alors, je suis pas d'accord dans le truc qu'il faut dire que les hommes jouent mieux que les femmes. Dans le sens où le foot masculin serait mieux que le foot féminin. Pas forcément pour tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent le foot féminin et il y a plein de gens qui trouvent que les femmes jouent beaucoup plus que les hommes. Qui préfèrent le foot féminin, justement, parfois pour ça.
Donc, Abigail, tu veux dire que ce que nous a dit Raphaël tout à l'heure, c'est un point de vue, le fait que
oui, c'est le point de vue.
Il y a un meilleur jeu, je mets des guillemets, chez les hommes que chez les femmes, c'est un point de vue personnel.
C'est un point de vue personnel et c'est vraiment selon les personnes. Il y a peut-être plus de personnes qui préfèrent le foot masculin, mais c'est vraiment le point de vue.
Ok, donc tu pourrais me citer au moins une personne. Bah voilà, merci.
Je connais une personne, mais non. Oui,
voilà. C'est bien ce que je me disais. Du coup, tu m'as dit que la fédération a été créée. T'as écrit en 1970, c'est ça ?
J'ai dit qu'elle avait reconnu le foot féminin.
Clairement pas. Alors, ok, tes recherches bon, sont fausses, sont approximativement fausses. Parce que, alors oui, pour le match de. Le premier match officiel, t'avais raison. C'est que, en gros, je vais dire, la fédération, il y a une fédération. Il y a la FFF, il y a la FFF et la FFFFF. Et sauf que la FFFFF, c'est compliqué à dire, ça a été créé vers, alors attendez, 2003. En 2003, ça a été créé. Ensuite, 1970, tu les sors d'où tes chiffres ? Je veux bien savoir, moi ça m'intéresse.
D'après le postulat de Raphaël, pourquoi est-ce que le foot féminin, il n'est pas aussi médiatisé que le foot masculin alors ?
Parce que les gens ont d'abord connu le foot masculin et donc vont rester dans les joueurs qu'ils connaissent, les joueurs qu'ils aiment, etc. Ils ne vont pas vouloir aller vers le foot féminin qui est, même si ça date de il y a pas longtemps, mais qui est plutôt nouveau. Donc les gens vont préférer rester dans ce qu'ils connaissent et pas forcément aller vers ce qu'ils connaissent pas, surtout que c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'il y a plus on médiatise plus le foot masculin.
Aussi je pense que le foot masculin est plus médiatisé que le foot féminin parce que pour un média, son but, c'est de faire de l'audience. Il sait que les auditeurs vont préférer le foot masculin, donc il va préférer en diffuser plutôt que du foot féminin. Mais sauf que ça fait un peu un cercle vicieux, vu qu'il est plus médiatisé, ça va pousser les gens depuis petit à plus se concentrer sur le foot masculin. Et donc ça tourne comme ça, et puis peut aussi y avoir... ça peut aussi entrer dans plein d'idées reçues qu'il y a sur les filles qui font du sport, et que donc même pour certaines personnes, dire qu'on aime le foot féminin, ça peut être un peu honteux.
Ça peut être honteux, je vois pas de quoi tu peux avoir honte d'aimer le foot féminin. Regarde-moi, jusqu'à début cette année, mi-août, je prenais que des équipes masculines sur FIFA. Bon, j'ai envie de te dire, elles sont arrivées vers 2019. Sauf que je prends maintenant, je vais te dire, c'est véridique en plus que je dis, hein, je prends 100% des équipes féminines maintenant sur FIFA. Et tu sais pourquoi ? Donc en fait, ça veut dire, ce que tu as dit, c'est que, et ce qu'elle a dit aussi, c'est que les gens s'intéressent moins au foot féminin. Alors, c'est totalement faux. C'est totalement faux parce que, regarde, moi, parce que le monde attire le monde, j'ai envie de te dire. Regarde, moi, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai plein d'amis qui s'y sont intéressés.
Je voulais juste te dire que j'ai l'impression que tu cites beaucoup ton expérience personnelle. Et c'est normal, mais quand tu dis que le foot masculin, par exemple, est un meilleur jeu, ça c'est pas prouvé, entre guillemets, c'est ton avis personnel. Quand tu parles d'un jeu vidéo, FIFA, et que tu dis que toi, maintenant, tu prends 100% d'équipe féminine, encore une fois, c'est toi, et vu que t'aimes citer beaucoup de gens, de ce que j'ai entendu des gens qui jouent à FIFA, il y en a beaucoup qui préfèrent prendre des équipes masculines. Donc... je pense que c'est plus intéressant de citer des choses qui ne sont pas que ton avis personnel à toi.
Alors, c'est effectivement moins médiatisé, on dit des chiffres, etc. Mais logiquement, plus tu médiatises quelque chose de nouveau, plus tu fais de chiffre d'affaires, logiquement.
Bien sûr que non.
Puisque c'est nouveau et les gens vont peut-être aimer. Et surtout que la qualité de jeu, d'accord, si on compare deux extraits de meilleurs du foot masculin et féminin, d'accord, peut-être les hommes sont meilleurs, mais ça a été inventé avant. Donc peut-être les hommes ont plus d'expérience par rapport à ça. Alors que les femmes, elles, c'est nouveau, elles essayent justement de s'imposer.
Normalement, quand tu fais quelque chose de nouveau et que le spectateur, on va dire ça comme ça, n'y est pas habitué, il y a 50% de chances que ça marche, 50% de chances que ça ne marche pas. Or, le foot féminin, ça a été prouvé que c'est moins... ça donne moins de chiffre d'affaires, bon, on va dire ça comme ça, hein, on va utiliser les mots simples, que ça donne moins de chiffre d'affaires que le foot masculin. Ce qui est totalement normal, je trouve, parce que, imaginons, on te prend, on te prend Cristiano Ronaldo, et c'est qui la Ballon d'Or ? C'est Aitana Bonmatí, je sais pas quoi, la Ballon d'Or. Donc, imaginons, on fait un article sur Aitana Bonmatí, pardon, et imaginons, on fait un article sur Ronaldo. Qu'est-ce que tu penses qui va se vendre le mieux ?
Alors, je pense que c'est peut-être celle sur le Ballon d'Or féminin. Parce que Ronaldo, tout le monde, on va dire que justement, les gens connaissent. Donc, un article sur Ronaldo que tout le monde connaît, alors que le foot féminin, justement, c'est nouveau et ça peut avoir sa place, je ne trouve pas que ça va rapporter plus de chiffres d'affaires, forcément.
Sur l'aspect de la nouveauté, je pense qu'en plus, en médiatisant du foot féminin, on peut rallier aux auditeurs, justement des femmes ou même des hommes qui vont vouloir supporter le foot féminin et qui, même, je trouve qu'il y a plus de gens qui ne s'intéressent pas au foot, mais qui du coup, puisqu'ils veulent se rallier à cette cause des femmes et tout ça, vont quand même s'intéresser au foot féminin. Ensuite, quand tu parlais justement de prendre un extrait des meilleurs moments du foot masculin et un extrait du meilleur moment des foot féminin, j'aimerais savoir aussi sur quoi tu te bases pour décréter qu'un moment dans le foot est meilleur précisément. Parce que je trouvais que c'était pas très clair et qu'encore une fois, ça partait plus sur de la vie personnelle.
Voici maintenant la chronique d'Ali sur les problèmes d'harcèlement au collège. Il a interrogé l'AED, l'assistante d'éducation, Adeline, pour nous éclairer sur ce sujet.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder le sujet délicat du harcèlement scolaire au collège Lautrentanel. Nous allons interviewer Adeline. Nous allons commencer par la première question. Que pensez-vous des problèmes de harcèlement ?
Je pense que c'est un grave problème qui dure depuis bien des années et qu'on ne met pas assez de choses en place pour anticiper ce problème.
Comment les gérez-vous ?
Les problèmes de harcèlement ? Bah, le problème, c'est qu'on gère ces problèmes que dans la voie passive, c'est-à-dire qu'une fois que c'est arrivé, on peut gérer, mais on ne fait pas assez de choses en amont, comme je viens de vous le dire.
Vous ne pouvez pas les frapper ?
Ah non, on n'a pas le droit, c'est interdit par la loi.
Comment les détectez-vous ?
Généralement, ce sont souvent des amis de la victime qui viennent nous en parler en premier.
Et comment agissez-vous ?
On met en place plusieurs choses, on reçoit tous les élèves, y compris les pseudo-harceleurs, les victimes et les amis. Et on met en place toute une enquête pour trouver la bonne version des choses et régler le souci.
Est-ce redondant ?
Oui.
Beaucoup ou énormément ?
Alors on va se calmer sur beaucoup déjà, mais c'est déjà pas mal.
C'est vraiment très redondant. Est-ce que ça arrive souvent ? Ou bien c'est seulement quelques fois où c'est le problème principal ?
C'est un des problèmes principaux. Le problème du harcèlement et le problème de la violence physique.
On remercie Adeline, surveillante au collège Lautrentanel.
Désormais, Lilia va vous parler de la réhabilitation de la mare pour le nouveau projet des éco-délégués.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec...
Monsieur Patin, je suis professeur de SVT, je m'occupe des éco-délégués, de l'équipe 2, et on travaille sur la mise en valeur des espaces au collège, et en particulier de la mare.
Quel est le but de la rénovation de la mare ?
Donc cette mare, elle a été mise en place au moment où le collège a été rénové, en 2014, et elle a donc 10 ans. Actuellement, on a un souci de fuite sur la bâche, qui a été provoquée par des végétaux qui ont perforé la bâche. Donc elle ne peut plus se remplir et on est donc obligé de la rénover.
Quelles sont les étapes de rénovation de la mare ?
Première étape, les éco-délégués et puis les membres du club nature vont commencer déjà par enlever toute la végétation, toute la vase qu'il y a dans l'ancienne mare pour pouvoir vraiment la mettre à nu. Il faut qu'on la vide entièrement pour pouvoir ensuite remettre une bâche neuve. Et c'est dans un second temps qu'on fera le remplissage et de nouvelles plantations. Il y a plusieurs mois de travaux qui sont envisagés.
Quels sont les coûts de la rénovation de la mare ?
On a besoin évidemment d'une nouvelle bâche qui coûte assez cher. Donc là, c'est entre 1 000 et 2 000 euros de matériel. Et puis ensuite, il va falloir acheter de quoi amener de l'eau dans cette mare. Et donc l'équipe d'éco-délégué numéro 2 travaille sur des récupérateurs d'eau qu'on va mettre en place à partir du toit du bâtiment G pour pouvoir alimenter cette mare et ne plus utiliser l'eau du robinet. On a un souci actuellement de ressources en eau. Il est interdit d'utiliser l'eau du robinet pour pouvoir faire ce genre de rénovation. Donc l'objectif c'est d'utiliser de l'eau de pluie, qui est beaucoup plus d'ailleurs naturelle, pour la remplir. Et donc ça va prendre aussi un certain temps. Donc au niveau de la rénovation, c'est l'équipe d'éco-délégué numéro 1 qui a en charge ce projet avec Madame Le Damani et Monsieur Duhaut. Donc c'est plutôt eux qui sont à la manœuvre. Pour l'équipe numéro 2 d'éco-délégué, on travaille donc plutôt sur le remplissage de la mare. Et puis pour l'équipe numéro 3 des éco-délégués, eux, ils sont plutôt sur la gestion des déchets et éviter que cette mare soit à nouveau polluée par des détritus. On a notamment retrouvé un téléphone portable tout pourri au fond de la mare. On a trouvé des stylos, des bâtons de colle, des ciseaux, du plastique. Et donc ça sera super que tout le monde puisse prendre conscience qu'il faut que cet environnement reste propre pour que notre biodiversité s'installe.
Pour au compte le port de l'uniforme à l'école, Capucine, Sarah, Lilia, Chloé et Jade et Raphaël vous ont préparé un débat flamboyant.
Nous continuons donc avec un débat sur le port de l'uniforme, pour ou contre.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Jeannette Jarry, je suis en 3e E au collège Lautrin de Tanel à Gignac. Alors moi, je suis les deux, je suis pour et contre, car je vois les arguments pour et je vois aussi les arguments contre. Je vais me baser sur mon expérience, car j'ai déjà porté l'uniforme et je suis en train, en ce moment, de ne pas porter l'uniforme. Donc, pour ou contre, moi je suis les deux. Et honnêtement, pour la toute première, pour le tout premier argument, moi je dis que ça n'évite pas du tout les moqueries, parce que les habits, ils ne peuvent pas être conformes aux formes des gens, ou à l'apparence physique, ou juste à ce que tu veux, parce que bah, on est tous différents, on a tous le droit de porter ce qu'on veut, et voilà.
Donc moi, je pense que je parle bien là ? Ouais. Je pense que je suis totalement pour le port de l'uniforme, parce que, bon, c'est pas mon seul argument, mais ça aide à la préparation à la vie professionnelle. Donc c'est-à-dire, le port de l'uniforme peut enseigner aux élèves, bah, déjà, un respect mutuel, parce que bah, justement, tu peux pas dégrader l'autre, je sais pas, un truc comme ça, et que le respect du code vestimentaire, donc c'est-à-dire l'uniforme du coup, et ça peut les insérer aux normes dans leur vie professionnelle. Voilà.
L'uniforme, ça peut aider à conformer à des normes, mais du coup, ça peut aussi, dès le plus jeune âge, faire entrer les personnes dans des moules et donc du coup brider en quelque sorte la personnalité. On n'a pas un uniforme, on doit se confronter aux autres comme ils sont, avec leurs moyens. Et donc peut-être qu'au contraire, ça pourrait encore plus pousser l'intolérance aux autres.
Moi, je m'appelle Chloé Desplan et je suis d'accord avec Capucine. Je pense aussi que ça rend les élèves moins tolérants aux différences.
Les arguments ont déjà été donnés.
Bon, alors déjà, ça n'évite pas du tout les moqueries. Ça, c'est sûr, ça, c'est ce que j'avais dit même au début. Parce que, genre, on peut se moquer de tout. On peut se moquer de la couleur de peau, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de racistes. Ils n'assument pas, mais bon. On peut aussi se moquer genre, de comment est la personne, si elle est handicapée, si elle a une déficience mentale, si elle est différente soi-disant. Dans les écoles, on peut être soit très méchant entre nous, soit nada, hein, parce qu'on ne peut pas être super gentil. C'est pas dans la nature humaine.
Alors personnellement, je suis pour le compte de l'uniforme. J'aimerais rebondir sur le fait que le gouvernement n'a jamais dit que l'uniforme servirait à arrêter totalement les moqueries, mais qu'elle servirait à les limiter. En faisant en sorte que tous les élèves portent la même tenue et le même uniforme, comme l'a dit mon collègue Raphaël, tout le monde porterait le même uniforme, donc il y a un peu cette notion de je ne peux pas se moquer d'une autre personne sur son uniforme, car je le porte moi aussi, et que se moquer de l'uniforme d'une personne serait en quelque sorte revenir à se moquer de notre uniforme. Donc je trouve que ça servirait plutôt bien à limiter, mais pas à stopper les moqueries, et que pour les stopper, ça c'est aux enseignants et à l'équipe professionnelle et encadrante de gérer ça.
Moi, je pense que l'uniforme scolaire peut réduire les différences socio-économiques, parce que il y aura pas de compétition pour savoir qui aura la meilleure marque, qui aura le meilleur habit, ou je sais pas, vous voyez, qui sera le plus stylé, on va dire ça comme ça, qui sera le plus stylé, on va dire.
Aussi se moquer de quelqu'un parce que ses chaussures sont d'une mauvaise marque ou par rapport à sa casquette, son sac à dos, enfin. C'est pas que par rapport à l'uniforme. Il y a vraiment plein d'autres raisons pour lesquelles tu pourrais te moquer. Sa coupe de cheveux ou autre.
En plus, j'aimerais ajouter que, comme on l'a un peu déjà dit, mais je voudrais développer, cet uniforme, tout le monde ne se sentirait pas forcément à l'aise dedans parce qu'on a des corps différents et que quelqu'un n'a pas confiance en soi dans ce qu'il porte, ça se sent. Et donc, en fait, que ce soit la coupe de l'habit, la couleur, en fait, ça peut encore pousser aux moqueries, et ça peut être très dur de venir, même si tout le monde a la même tenue, quand toi, tu te sens pas à l'aise dedans.
Déjà, l'État, il nous a pas demandé notre avis. sur la coupe de l'uniforme, sur la couleur, parce que, soi-disant, on est dans une démocratie où on peut faire des référendums à tout bout de champ, où on peut faire des demandes pour le choix des élèves. Parce que justement, c'est eux qui vont le porter. C'est pas Gabriel Attal qui décide tout d'un coup, vu que c'est lui l'ancien ministre de l'Éducation, qui dit, genre, même si lui, il a subi de l'harcèlement, je comprends et tout. Mais quand même, tu peux pas décider pour des millions d'élèves tout ce qu'ils doivent, ce qu'ils doivent porter tous les jours, lors du sport et tout ça. Genre, on est.
Alors déjà, pour revenir à l'argument de Capucine au sujet des coupes d'uniformes ou de l'apparence qui pourrait porter préjudice à certaines personnes, pour revenir sur les coupes d'uniformes, je pense très honnêtement que le gouvernement fera un système de demande où tu pourras demander à modifier, à élargir ton uniforme, à changer les coupes.
Tu crois vraiment que le gouvernement va nous demander notre avis sur qu'est-ce qu'on veut porter, qu'est-ce que nanana, je sais pas quoi. Mais en fait, clairement pas, non. C'est pas le gouvernement, il décide pour toi. Bah, en fait, c'est limite logique. Donc on va prendre l'exemple d'une loi. Ok, il faut ne pas tuer quelqu'un, par exemple. C'est pas vraiment une loi, c'est pas dit comme ça. Est-ce que tu crois vraiment que le gouvernement, il va nous demander notre avis, il va faire un vote, un sondage populaire pour savoir s'il ne faut tuer ou ne pas tuer des gens. Tu crois vraiment que c'est un exemple? Non, mais c'est un exemple. Je comprends. Oui, mais c'est un exemple. Tiens.
Les lois, elles sont quand même votées par certaines personnes. Juste pour ajouter quelque chose aussi, c'est que alors il y aura du coup un uniforme avec un pantalon et un t-shirt et une jupe. La jupe serait censée convenir aux filles, mais nous pourrions, soi-disant, choisir. Mais les filles, du coup, qui ne choisiraient pas la jupe, peut-être qu'on les considérerait ou on les traiterait de garçons, ça pourrait... Voilà, même les garçons qui se sentent filles et qui prennent une jupe, peut-être qu'on va peut-être les insulter ou des choses comme ça. Alors que ça, dans la vie de tous les jours, on choisit ses vêtements, on ne nous impose pas, alors que là, il y aura deux choix et c'est tout. On ne va pas nous demander de choisir, pour revenir sur l'argument de Capucine, la couleur, etc. Si ça va nous aller ou pas.
Moi, je pense que ça serait n'importe quoi de laisser choisir, de laisser les autres choisir, puisqu'en soi, laisser les autres choisir, c'est comme s'il n'y avait pas d'uniforme. Parce que si tout le monde choisit, ça fera trop d'options différentes et ça, déjà, il n'y aura pas vraiment une majorité. Et du coup, ça serait comme si on ne mettait pas d'uniforme, si on laissait les gens choisir.
Moi, je suis contre parce que l'uniforme, je trouve, ça retire la personnalité. Par exemple, si on essaie de se faire des amis, on ne pourra pas connaître directement sa personnalité. Et ensuite, du coup, la société va certainement s'effriter parce qu'il y aura beaucoup moins d'échanges entre les personnes.
Les élèves, ils peuvent se sentir mal à l'aise en portant une tenue qu'ils n'ont pas choisie. Par exemple, s'ils n'aiment pas porter des jeans et que c'est des jeans, ça peut leur déplaire et se sentir mal à l'aise.
Sur l'argument de Jade qui avait dit que le gouvernement devrait nous demander notre avis au sujet de l'uniforme, je pense que le gouvernement est au courant que si jamais les élèves qui sont au final à un assez bas âge, qui ne sont pas des adultes, doivent décider de l'uniforme, ils décideraient forcément de choses extravagantes, de choses qui ne ressembleraient pas à des uniformes sérieux.
Aussi, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup d'établissements qui s'étaient proposés donc, pour laisser l'uniforme à la rentrée 2024 et qui se sont retirés. Donc, pour moi, ça peut apporter une preuve qu'il y a quand même une grande majorité d'élèves qui ne veut pas de l'uniforme.
Web Radio. Retrouvez la 4e émission du Club Web Radio fin juin.